Annie Laurent, bonjour.
Bonjour.
Annie Laurent, vous êtes docteur d'État en sciences sociales, vous êtes juriste, écrivain, journaliste, vous êtes aussi spécialiste du Proche-Orient, de l'islam, et vous avez vécu plusieurs années au Liban. Annie Laurent, vous animez à Philanthropos un module qui s'intitule « La personne humaine dans l'islam ». Des questions brûlantes aujourd'hui, avec une montée de l'islam de plus en plus visible dans nos terres occidentales. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire au cours de ce module à l'Institut Philanthropos pour nous préparer à mieux vivre justement ce rapport avec l'islam ?
D'abord, je trouve très bien qu'on ait instauré un module sur l'islam dans la formation qui est donnée dans l'Institut. C'est très important, comme vous l'avez dit, parce que nous sommes maintenant dans un monde pluraliste et par la force des choses, nous sommes amenés, et ça va se développer, à côtoyer de plus en plus de musulmans et de musulmans souvent croyants qui savent parler de leur religion. Et donc, c'est un véritable défi qui se pose à nous. D'ailleurs, je dirais un défi à la société, surtout à la société laïque dans laquelle nous vivons, et où Dieu a été mis à l'écart, ce que beaucoup de musulmans ne comprennent pas d'ailleurs. Donc défi pour la société laïque et défi pour l'Église aussi, dans la mesure où, face à une religion qui affirme sans complexe ses convictions, eh bien l'Église, les catholiques, les chrétiens en général, sont amenés à rendre compte de leur foi et de leur espérance. D'où l'importance, d'une part, de bien connaître la doctrine musulmane et en même temps de bien se former en tant que chrétien sur le contenu de notre propre foi. Donc la démarche d'ici me paraît essentielle dans le monde d'aujourd'hui.
Alors évidemment, le cadre de ce module, c'est pas tellement d'approfondir notre foi chrétienne, bien que dans la manière dont vous faites cette approche, en nous présentant bien en détail quand même la foi musulmane, vous faites souvent le parallèle.
Oui, c'est voulu, bien entendu, vous l'avez compris. Cette approche comparative permet de bien voir les différences ou les parfois certaines proximités qu'on peut trouver aussi entre nos deux religions. Et en même temps, bien entendu, ça permet de nous faire prendre conscience de la beauté extraordinaire de la révélation biblique.
Peut-être un mot sur la notion de personne humaine, parce que ça a l'air assez central quand même dans la compréhension entre justement la foi musulmane et la foi chrétienne.
Bien sûr, enfin ici on est là d'ailleurs pour étudier la question de la personne, on fait de l'anthropologie aussi. Ce que j'ai commencé par faire, vous l'avez vu, c'est que j'ai commencé par présenter le Dieu du Coran, parce que la façon dont les croyants musulmans voient l'homme découle directement de leur façon, de leur conception de Dieu, telle qu'elle est transmise par le Coran. Nous, chrétiens, nous avons pris conscience de la grandeur et de la beauté, de la dignité spécifique de la personne humaine grâce à la révélation du Dieu trinitaire qui nous a été faite par Jésus-Christ. Dans l'islam, le Dieu musulman est un Dieu un et seulement un. On parle de l'unicité de Dieu lorsqu'on veut définir le Dieu unique dans le Coran. Donc un Dieu qui est étranger à toute notion d'autocommunication en Dieu lui-même. Il n'y a pas le Dieu un en trois personnes. Toute l'anthropologie musulmane découle de cette conception d'un Dieu un et seulement un.
Notion de droit de l'homme alors qui va avec?
Oui, bien sûr. En islam d'ailleurs, il est plutôt question des droits de Dieu que des droits de l'homme.
Alors Annie Laurent, l'approche que nous avons avec vous de la foi musulmane est une approche que peu de musulmans peuvent avoir, puisqu'on a un regard extérieur, on ose une certaine exégèse resituer dans le contexte historique des choses qu'on ne peut pas faire dans la foi musulmane. Est-ce que à l'issue d'un cours comme celui que vous nous proposez, on n'est pas tenté de dénigrer un peu la foi des musulmans?
Écoutez, moi j'essaie de ne pas porter de jugement sur la doctrine musulmane. Je vous la présente telle que je l'ai étudiée, telle qu'elle ressort d'ailleurs des textes de l'islam lui-même. Je suis très souvent amenée, vous l'avez remarqué, à vous lire des versets du Coran exprès, bien entendu. Comme ça, vous voyez bien que je n'invente rien. Mais il est inévitable que en regard, je veux dire, comme par un effet de miroir, lorsqu'on étudie la doctrine coranique, on se rend compte que la doctrine chrétienne est insurpassable. Alors, il ne faut pas en tirer la conclusion qu'on doit dénigrer les musulmans. Il faut toujours essayer de distinguer entre la doctrine et les personnes. C'est très important. Dans le dialogue interreligieux, d'ailleurs, nous dialoguons avec des personnes et non pas avec des systèmes. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Hein. Et il faut aussi comprendre que tous les musulmans ne vivent pas l'islam de la même façon. tous ne sont pas attachés à la lettre du Coran. Il y a différentes façons de vivre l'islam. Il y en a qui sont attachés à la loi, c'est vrai. D'autres qui voient l'islam plutôt comme une philosophie. D'autres comme un système religieux, de piété, etc. Et puis il y a des musulmans qui prennent beaucoup de distance envers la doctrine aussi. Hein. Toujours avoir en tête cette pluralité de façons de vivre l'islam. C'est très important, ça.
En regardant plus en détail ce comparatif, en fait, entre la foi chrétienne et l'islam, on est quand même ébloui, je dirais, d'une certaine façon. Vous l'avez dit vous-même, qu'est-ce que je suis heureuse d'être chrétienne, et plus je découvre l'islam, et plus je me réjouis d'être chrétienne. Est-ce que face à cette vérité de la foi chrétienne, cette profondeur qui éclate à nos yeux, on n'aurait pas aussi un risque de se prendre pour supérieur un peu?
Oui, c'est un risque que vous mettez justement en évidence. Voilà la position de l'Église devant la vérité. La vérité, bien sûr, c'est Jésus. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nous devons le croire. Puisque Jésus est Dieu, Fils de Dieu, donc l'incarnation du Verbe de Dieu. La vérité, nous ne la possédons pas. Elle nous saisit. C'est ça la bonne attitude. Nous devons être saisis par la vérité. Rendre grâce pour ce don, un signe de la bonté de Dieu. Dieu nous a donné la vérité, nous a révélé son être même. Dans l'islam, Dieu révèle sa loi. Dans le christianisme, Dieu se révèle. Il révèle donc son être même. Et donc, nous avons connaissance de cette vérité, mais nous en sommes saisis, nous ne la possédons pas, et nous devons toujours nous mettre dans la tête que cette vérité nous est transmise, nous est communiquée par pure gratuité, par grâce. Ce n'est pas par notre propre effort que nous parvenons à la vérité, et donc nous ne la possédons pas, d'où l'invitation à être humble et reconnaissant, double attitude, l'humilité, puisque la vérité, ce n'est pas nous qui l'avons, hein, on ne la possède pas. Et la gratitude devant Dieu qui nous l'a fait connaître. Et en plus, il faut ajouter à tout ça le désir de transmettre cette vérité, bien entendu, puisqu'elle ne nous appartient pas, elle nous est donnée pour que nous la transmettions à ceux qui ne la connaissent pas. Et donc c'est ça qu'on appelle l'évangélisation.
Alors, on va y revenir justement sur l'évangélisation et cette interpellation. On se situe en face d'une montée de l'islam et même d'une ré-islamisation. On voit ça notamment avec l'apparition du voile et un certain nombre de choses comme ça. On pourrait aller jusqu'à dire que c'est une chance pour nos sociétés occidentales? Est-ce que justement le fait que ça nous interpelle, ça nous oblige à nous repositionner? Comment on doit réagir en face de ça?
Oui, j'ai parlé de défi. Hein. Ça peut être un défi pris positivement, justement. Pourquoi est-ce qu'on assiste à ce mouvement de réislamisation dans nos sociétés occidentales, où les premiers musulmans qui venaient s'installer chez nous étaient tentés par le modèle laïque dans lequel nous vivons? C'est ça qui est l'interpellation. Cette réislamisation, à mon avis, est le signe d'un rejet des valeurs de la société que nous proposons aux musulmans que nous accueillons chez nous. En retrouvant des traditions qu'ils avaient abandonnées volontairement par attirance pour la société occidentale, eh bien, ils nous disent finalement, votre société, elle est méprisable, nous la rejetons et nous retournons à nos valeurs, même des valeurs qui ne sont pas moralement acceptables du point de vue chrétien. Par exemple, l'enfermement de la femme, enfin, le statut d'inégalité de la femme, qui est symbolisé par le voile. Le voile est un symbole. C'est beaucoup plus profond, je crois, que ce que on veut admettre. Ce n'est pas simplement un refus de la laïcité. C'est tout le statut de la femme qui est manifesté par le voile. Et en rejetant le voile islamique il y a quelques décennies, au début du XXe siècle entre autres, les femmes musulmanes voulaient s'émanciper de leurs conditions. Et maintenant, elles reviennent à ces traditions. C'est ça qui est l'interpellation. Pourquoi? Elles reviennent à des traditions qui leur sont au fond défavorables, mais par rejet. Et surtout, ce qui choque beaucoup les musulmans, et les femmes en particulier chez eux, c'est l'immoralité, la décadence, enfin, l'immoralité dans le domaine vestimentaire, de l'impudeur, etc. Voyez. Donc, ça doit nous amener à réfléchir sur ce que nous, encore une fois, sur ce que nous proposons, sur ce que nous sommes, la façon dont nous vivons notre religion, nos traditions, nos valeurs.
Alors, on sent la laïcité, en tout cas la française, qui est complètement démunie en face de ce mouvement de réislamisation. Est-ce que justement la réponse serait pas que nous retrouvions notre foi chrétienne, qu'on ait des convictions, qu'on n'ait plus à rougir de notre foi?
Bien entendu, pour moi l'islam est une provocation à nous convertir, hein, ça c'est clair, et je pense que c'est pourquoi Dieu permet que l'islam soit chez nous maintenant, dans notre situation. que le pape définit comme une situation d'apostasie générale en Europe. Hein. L'islam, au fond, a le mérite de remettre Dieu dans la cité, Dieu que nous avons chassé de la cité. L'islam le remet avec force, avec conviction, fermeté, exigence, revendication. Il faut prendre en compte donc Dieu dans la cité. L'islam a le mérite aussi de contribuer à la resacralisation de la cité. Vous voyez, et ça aussi c'est une interpellation. Nous avons beaucoup désacralisé même notre pratique religieuse chez les chrétiens.
Vous nous avez dit, Annie Laurent, que le musulman est quelqu'un qui vit sous le regard de Dieu, qui a un grand sens du sacré. Vous-même, vous connaissez de nombreux musulmans. Qu'est-ce qu'ils demanderaient à des chrétiens, justement ?
En général, les musulmans respectent mieux les chrétiens lorsque les chrétiens avec qui ils sont en contact, en dialogue, justement, sont fermes dans leur foi et témoignent de leur vie de foi par la prière, par la dévotion à Dieu et par une vie droite et aussi par le sens du sacré, bien sûr. Vous voyez, par exemple, un prêtre en habit ecclésiastique ou un religieux en habit religieux, un dominicain en habit, un carme en habit, attirera spontanément le respect du musulman qu'il côtoiera, vous voyez. C'est très important, ce sont des signes qui ont vraiment de l'importance, plus que ce qu'on veut bien nous dire. Les musulmans respectent ce qu'ils appellent les hommes de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, vous voyez. J'ai un ami, ça peut vous intéresser, un ami religieux, un carme, qui aime à dire « Nous avons enlevé le voile de nos religieuses et nous nous retrouvons avec le voile des musulmanes ». Bon, c'est caricatural un petit peu si vous voulez, mais ça reflète bien une certaine réalité.
Alors Annie Laurent, vous qui connaissez bien le monde musulman et bien les enjeux, est-ce que il faut avoir peur ? On a l'impression que nos États occidentaux sont un peu démunis. Est-ce que on doit avoir peur ?
Alors nos États occidentaux sont démunis dans la mesure justement où ils se sont sécularisés, hein, et ils se trouvent devant une religion qui s'installe avec ses revendications, sa présence très très de plus en plus forte, et nos pouvoirs publics, même dans l'Église d'ailleurs, sont désemparés, ne savent plus comment faire et il y a la tentation d'analyser les choses avec des critères occidentaux qui ne correspondent pas aux réalités islamiques. Alors, pour ce qui concerne la peur, carrément non, nous ne devons pas avoir peur. La peur est mauvaise conseillère dans la mesure où elle peut conduire à des attitudes qui ne sont pas fidèles à l'Évangile, précisément le repli sur soi ou l'agressivité. Mais cela dit, il convient d'être lucide. Hein. L'islam n'a pas que du bon, loin de là. Et donc, nous devons être lucides sur ces aspects négatifs que nous devons refuser dans nos sociétés. Il s'agit de l'ordre public à ce moment-là. Voyez. J'ai un ami prêtre encore qui dit « Il faut appréhender l'islam le cœur ouvert, mais les yeux ouverts aussi. » Ça dit bien. Il faut toujours une position équilibrée entre la charité et la vérité, bien sûr. Donc, d'où la lucidité.
Puis une certaine fermeté, vous l'avez mentionné aussi à plusieurs reprises.
Oui, fermeté dans nos convictions, mais sans agressivité.
Alors, est-ce qu'il existe, selon vous, un islam modéré ? Ou peut-être que la question serait mieux posée si on demandait s'il y a des musulmans modérés ?
Oui, moi je ne crois pas en un islam modéré. Lorsqu'on étudie le Coran, on se rend bien compte que l'islam est un tout, hein, un tout, une foi, une loi, un système à la fois politique et religieux. Il y a une dimension d'idéologie dans l'islam. En revanche, comme je l'ai déjà dit, tous les musulmans ne vivent pas l'islam de la même façon. Et il y a des musulmans authentiquement modéré, bien entendu. Et quand on dialogue avec ces personnes, et il est très important d'encourager les tendances modérées chez les musulmans. C'est ça qu'on peut espérer. Je ne pense pas qu'on puisse espérer, nous, chrétiens, réformer l'islam. Si l'islam se réforme, ce ne sera plus l'islam authentique.
Vous avez évoqué une certaine protection peut-être d'intellectuels musulmans, par exemple, dans des universités françaises.
Donc il y a des nouveaux penseurs, ce qu'on appelle des nouveaux penseurs de l'islam, c'est vrai, qui émergent dans le monde musulman. Ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils prennent des risques en promouvant une nouvelle lecture du Coran. Mais donc nous devons les encourager. Malheureusement, ce que disent certains professeurs d'université en France, c'est que par pusillanimité, par peur de ne pas paraître raciste aussi, vous savez, qu'est-ce qu'on ferait pas au nom de la peur de ne pas paraître raciste, eh bien, il y a un début de tendance à vouloir céder aux diktats d'islamistes qui voudraient imposer des méthodes qui ne favorisent pas la liberté dans la recherche universitaire. Et il est évident qu'il ne faut pas céder à ces diktats-là. La France doit rester un pays de liberté pour la recherche universitaire. Parce que c'est dans ces pays, dans des pays comme la France, que ces nouveaux penseurs de l'islam peuvent justement approfondir leurs travaux et travailler dans la sérénité, en vue un jour peut-être de propager leurs idées dans le monde musulman.
Alors Annie Laurent, vous avez donc parlé de deux défis, un défi pour la société, un défi pour l'Église. Je ne vous demande pas de jouer le prophète, mais comment vous sentez les choses? Est-ce que ces défis, on va savoir les relever comme il faut, ou est-ce qu'on part à notre perte quand même?
Non, on ne part pas à notre perte, c'est évident. Dieu nous a garanti que l'Église passera toutes les épreuves qu'elle aura à subir. Donc il y a l'espérance, nous devons avoir l'espérance fermement enracinée en nous, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que la situation actuelle est grave, on peut dire qu'elle est grave. Il faut avoir le courage de la regarder en face. Mais la vraie réponse aux défis que pose l'islam, avec ses côtés dangereux, eh bien le véritable défi, c'est notre propre conversion. Nous avons à nous convertir, à vivre pleinement de notre foi, profondément. Je dis ça pour moi comme pour tout le monde, bien entendu, je ne suis pas meilleure que les autres. Et nous avons aussi à travailler, nous les chrétiens, à re-christianiser la société dans laquelle nous vivons, à lui redonner son authentique tradition chrétienne, évangélique. Vous voyez, refaire un tissu chrétien. C'est ça qui nous est demandé. Nous convertir et refaire un tissu chrétien.
Ça me paraît un beau programme.
Ah oui, stimulant, c'est exaltant même, difficile, exigeant, mais Dieu attend ça de nous, on le sait bien.
Annie Laurent, je vous remercie.
Je vous en prie.